100 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages. Votre émission qui parle du monde des livres en Anjou, c'était il y a plus de 5 ans. J'avais rendu visite à TM, à l'atelier Kawa, à Mazémillon, pour la parution de son indispensable roman graphique Piments Oiseaux. En 5 ans, il s'en est passé des choses. 4 albums publiés et la continuation de l'animation de la revue Le Cri du Margouilla, sa grande surprise, je suis au courant de ça, avec une dernière publication en 2026. Et puis en janvier, la publication du roman graphique Les Grandes Personnes. Et c'est de cet album dont nous allons parler aujourd'hui avec son auteur. Dans la deuxième partie de l'émission, j'accueillerai les nouveaux responsables de la librairie Contact à Angers. Au mois de mars 2025, la SCOP, la SADEL, SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, décidait de s'en séparer pour des raisons de rentabilité. On est exactement 1 an après. Il m'a semblé important de comprendre comment une activité dite non rentable pouvait intéresser un entrepreneur. Vous êtes dans Entre les pages, sur Radio G, et vous avez bien de la chance. Bonjour TM. Les Grandes Personnes, apparues au mois de janvier dernier, à nouveau un gros roman graphique de 150 pages. C'est quoi la genèse de ce roman ?
Il y a à peu près une dizaine d'années. Ça, c'est vieux, hein. J'ai fait un cauchemar, en fait, que j'ai noté.
Ah.
Un cauchemar dans lequel un personnage, alors c'était pas forcément moi, c'est un personnage qui se faisait attrapé par des géants et traîné comme un chien. Voilà. Donc c'est parti de ça. Après, c'est juste une anecdote comme ça. Et puis cette histoire-là, je l'ai un peu enrichie au fur et à mesure des années. Et c'est une histoire qui m'a un peu obsédé pendant pas mal d'années. Et entre-temps, j'ai fait avec Apollo donc les Chroniques du Léopard, puis 20 décembre, qui parle de l'esclavage. Et lors de la création de 20 décembre, Apollo et moi, on a fait une résidence d'une année aux archives départementales de La Réunion. Pendant lesquels on a trouvé énormément de documents concernant l'esclavage. Et c'est des choses qui nous ont beaucoup marqués. Et moi davantage sur quand j'ai essayé de prendre tous ces éléments et de les inclure dans le projet de cette histoire-là. Donc ça m'a nourri beaucoup. Et du coup, ça j'ai peu à peu transformé mon récit original en ce qu'il est devenu maintenant, quoi, grâce à cette influence des archives.
Des archives et des cauchemars.
Et des cauchemars.
Et des cauchemars, quand même. N'ayons pas peur des mots. Encore une île dans votre bibliographie.
Ah bah, ça va rester un peu une obsession jusqu'à ma mort, je pense. J'en parle beaucoup, en fait, dans tous mes travaux, y compris ceux de la jeunesse, la genèse et la jeunesse, sur les bouquins, enfin, jeunesse, Malika Sekou, Zab Kohej, etc. Il y a toujours cette idée de mixité, enfin, métissage, voilà. Et donc, et l'histoire de La Réunion, bah, c'est mon histoire aussi. Moi, je viens de La Réunion. Donc, c'est quelque chose qui reste profondément ancré dans mon imaginaire. Et, quelle que soit l'histoire que je raconte en bande dessinée, il y a toujours quelque chose de La Réunion.
Ouais. Mais là, l'île, elle est totalement imaginaire.
Oui.
Comme dans les cauchemars, quoi.
Ouais, c'est une fiction totale. Alors, ce qui m'a servi quand même par rapport à La Réunion, c'est par exemple pour la création des plantes ou des animaux. Je suis quand même inspiré d'animaux qui sont de La Réunion, des plantes qui sont de La Réunion.
Oh, les ventrus, ils sont de La Réunion ?
Non.
On en reparlera après.
Mais par contre, j'ai mélangé des caractéristiques d'animaux ou de plantes de façon à créer une chose un petit peu hybride.
Ouais, il y a de l'hybridation là. Ouais, il y a vraiment de l'hybridation.
Du métissage.
Du métissage. D'ailleurs, justement, c'est tellement cette île, ce territoire est tellement imaginaire que vous en avez inventé tout le bestiaire.
Oui.
Hein? Il a fallu inventer des oiseaux bizarroïdes, des animaux vraiment bizarroïde. Comment on appréhende quand on a fait un cauchemar, qu'on s'est documenté sur la Réunion, qu'on s'est documenté sur l'esclavage. Comment on imagine de fabriquer des personnages et des animaux et des plantes d'ailleurs. Comment ça se passe?
Ce sont des chimères, c'est-à-dire que je prends des animaux qui sont complètement différents, par exemple un insecte, un oiseau, et puis je mets un bec de l'oiseau sur l'insecte et inversement.
Enfin, c'est du génie génétique, ça.
C'est assez facile en dessin.
Oui.
Non, c'est un grand plaisir parce que jusqu'à présent, effectivement, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées, soit réalistes. Alors, par exemple, Zap Collège, Malika Sekou se passe dans un milieu urbain contemporain. Après, j'ai quand même abordé un peu l'histoire, enfin, des BD historiques, et donc avec un socle réaliste. Là, j'avais vraiment envie de partir dans complètement autre chose et de sortir de la réalité.
Et là, vous êtes vraiment sorti de la réalité.
Complètement, oui.
Alors, vous êtes tellement sorti de la réalité, on va juste parler du démarrage. Le démarrage de ce roman graphique, c'est un jeune freluqué, parfumé, un peu court, un peu léger quand même. Hein. Et d'ailleurs, il a un nom à l'image du personnage, Émilien de Terrecourt de Barzavay, et qui embarque sur un de ses bateaux pour accompagner une cargaison et revenir riche.
Oui.
Hein, c'est ça le pitch.
Ça, oui, c'est sa vision des choses.
Voilà. Oui, c'est sa vision.
Avant tout, il se sent commerçant. Voilà. Commerçant, enfin, bourgeois commerçant. Mais en fait, il hérite du commerce de son père, qui est, je crois qu'on peut le dire maintenant, il fait du commerce d'esclaves, donc la traite des Noirs. Et donc, il transporte dans son bateau des esclaves, des futurs esclaves. Et du coup, ce bateau va échouer sur une île hypothétique, une île sur laquelle il va se passer des choses.
Comme en pleine mer, il y a des îles, et comme par hasard, il tombe sur une île.
C'est classique comme début.
Oui. Et bien entendu, ce jeune, alors moi je l'ai appelé jeune freluquet parce que vraiment il a le gabarit d'un freluquet, enfin, il est prétentieux, enfin bon, il a tous les défauts de la bourgeoisie en réalité. Et puis il a le caractère aussi, c'est-à-dire que sur ce bateau, lui il est peut-être le patron du bateau, mais il y a un capitaine. Et bien évidemment, ce jeune freluquet n'écoute pas le capitaine et les conseils du capitaine.
Oui, alors c'est un personnage qui réunit tous les défauts du monde. et c'est-à-dire ce qui m'a un peu joué des tours au début, parce que c'est un projet que j'avais déjà présenté il y a quelques années à des éditeurs, et on m'a dit que le personnage principal, donc Émilien, était trop négatif pour que le public s'y identifie. Ce que je comprends tout à fait, hein, mais comme le principe de l'histoire, c'est justement la transformation de ce personnage et son humanisation, c'était nécessaire qu'au départ, ce personnage soit particulièrement imbu et insupportable. Mais c'est vrai que c'est aussi un plaisir graphique de rendre un personnage horrible comme ça. Il n'y a pas mieux que dessiner des méchants ou des cons, quoi. Donc, je me délectais de ce qu'il allait dire et de son caractère insupportable.
Encore que, c'est un méchant de l'intérieur. Vous le dessinez pas méchant, méchant, méchant. Enfin, quand il est au début, il fait ses serments à sa Dulcinée. Je vais revenir riche, tout ça. Et finalement, il est fort sympathique, ce jeune homme.
Oui, parce qu'en fait, ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'il c'est aussi le résultat d'une histoire et d'une éducation, d'une culture. Tout ça, c'est imprégné dans sa personnalité. Et il n'imagine pas les choses autrement que comme ça. C'est-à-dire que lui, en tant que patron, en tant que noble, en tant que propriétaire d'esclaves, tout ça, c'est pour lui, ça lui semble logique et naturel. Et ce que je voulais, c'est justement briser un peu tout ça avec son expérience.
Alors, le bateau part. Le jeune freluquet n'en fait qu'à sa tête et le capitaine le prévient que ça va souffler fort. Le jeune freluquet dit, non, on va continuer tout droit. Et puis, la catastrophe arrive, c'est-à-dire le naufrage arrive réellement. Parce que avant d'arriver sur l'île, il faut un naufrage, nécessairement un naufrage. Le seul survivant, pas que le seul survivant, les deux survivants, c'est ce jeune homme. Alors moi, je trouve qu'il est très jeune, mais c'est ce jeune homme. Mais j'imagine qu'à l'époque où se déroulent les événements, c'est normal d'être aussi jeune. Et il se retrouve avec sur le même esquif, avec Prudence. Alors moi je mets la servante, l'esclave, la servante du capitaine.
C'est ça. Oui, c'est ouais. La servante du capitaine qui visiblement le sert depuis pas mal d'années, qui est une vieille esclave en fait, et qui a des pouvoirs, elle guérit avec grâce à des potions qu'elle fabrique elle-même. Donc elle est guérisseuse.
Oui, guérisseuse, mais notre ami Émilien a tellement peur de ses potions que, bien que malade pendant la traversée, il refuse quand même de les prendre, ces potions.
D'ailleurs, il refuse, il dénie, il est dans le déni complet, hein, il ne peut pas reconnaître qu'il est malade.
Alors, et donc l'esquif arrive sur l'île, et il s'avère que c'est pas, on n'est pas dans Robinson Crusoe, on arrive sur une île qu'on peut supposer déserte, mais qui est pas déserte.
Non, alors c'est une île peuplée de créatures complètement, pas mal de géants quand même, hein, dans l'ensemble. De manière générale, il y a des tribus de géants, des animaux qui sont géants, enfin tout est un peu géant. Et du coup, Émilien se retrouve là dans un monde qui ne ressemble pas du tout à celui qu'il connaît. Et voilà, il faut qu'il s'adapte.
Alors, dans ces personnages que vous avez fabriqués, alors les grandes personnes, alors je sais même pas si elles ont un nom, parce qu'il y a deux peuples sur cette île, hein, qui s'affrontent, qui s'opposent, hein. Alors il y a les ventrus. Oui. D'un côté. Alors, les autres, ils s'appellent comment? C'est les grandes personnes. Moi, je les ai appelées les grandes personnes.
J'ai pas trouvé de nom. J'ai pas eu l'idée de trouver un nom à cette tribu. Je pense qu'entre eux, ils s'appellent les hommes, enfin, on peut dire les hommes ou les femmes, parce que c'est les créatures. Enfin, je sais pas, j'ai pas cherché de nom particulier pour ça.
Ouais. Alors, ces grandes personnes sont plutôt anthropomorphes.
Oui.
Elles sont pas très loin de nous. Mais alors, au niveau de la taille,
c'est un peu différent.
Hein, oui, là, on est chez Gulliver, là.
C'est du 6 à 8 mètres.
Oui, oui, c'est ça, 6 à 8 mètres. Et donc, quand Émilien commence à découvrir et puis se fait capturer, en fait, tout ce qui va se passer, c'est qu'il se fait capturer par ces grandes personnes. Là, la vie va commencer à devenir compliquée. Aux yeux d'Émilien, ces gens, et je crois que tout le but, enfin l'objectif de ce roman graphique, ces gens, il est chez des sauvages. Prudence, c'était une sauvage, voilà, on peut pas discuter avec une esclave ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a la peau sombre ou noire, c'est pas possible. Alors des gens qui sont habillés avec des soupçons de vêtements, là c'est vraiment pas possible, qui parlent pas la langue d'ailleurs, c'est pas possible. Quoi.
Ils parlent même pas le latin en plus.
Oui, ils parlent pas le latin. donc ce sont des sauvages. Alors, je l'ai dit, deux peuples habitent en dehors de tous les animaux qui volent, des poissons, enfin des poissons qui tout d'un coup surgissent parce qu'ils sont éjectés par des oiseaux bizarres. Il y a effectivement cet autre peuple, les ventrus. Les ventrus, et là, c'est quand même, enfin j'imagine que le choix est volontaire, ce sont des grands personnages, pas du tout anthropomorphes, blancs. Anthropophage.
Oui.
Ça dit quoi, ça? Des blancs, anthropophages.
Alors, le blanc, je dirais l'absence de couleur, c'est une question esthétique avant tout. C'est-à-dire qu'il y a un côté effrayant, fantomatique, que je veux donner à ces personnages-là. Et puis d'autant plus que le rouge sur le blanc, ça sort beaucoup mieux. Hein, donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis, donc, ce sont vraiment pour moi, des animaux. C'est pour ça que je me suis posé la question longtemps on va peut-être y revenir, mais sur la façon dont j'ai raconté l'histoire en différents points de vue.
Oui.
Il se trouve qu'il n'y a pas le point de vue des ventrus.
Oui.
Et en fait, les ventrus, pour moi, sont des animaux, en fait. Donc, c'est le côté vraiment animal, brutal.
Donc, ils ne sont pas anthropophages. Nécessairement, ils ne sont pas anthropophages.
Voilà.
Et donc, oui, ben, justement, parlons de ce séquençage.
Oui.
Du roman. Donc il y a un prologue, un épilogue, et c'est important, et puis il y a plusieurs parties. Ces plusieurs parties, elles correspondent à quoi?
Alors chaque partie correspond à la vision de l'histoire d'un personnage. Donc on a la première partie qui est donc l'histoire d'Émilien, comment lui se fait capturer et comment lui va vivre cette aventure-là. La deuxième partie, c'est la vision de Prudence, donc qui est une vision que j'ai d'ailleurs le plus de plaisir à dessiner, je trouve, parce qu'elle est la plus libre, donc c'est quelqu'un qui se sent beaucoup plus libre dans cette situation-là. La troisième partie, c'est celle de Magé, qui est donc la géante qui capture Émilien, et la quatrième, c'est la vision de Gélé, donc la fille de Magé, je sais pas si tout le monde suit. Gélé, donc qui est
l'enfant,
l'enfant
le de la Chéronte, des grandes personnes.
Qu'on pense être un être humain qui est en fait un bébé géant en fait, et qui est un peu l'avenir de la tribu. Ouais.
Et qui est en fait qui fabrique du lien. Enfin, c'est avec lui que tout se noue en réalité, avec ce Gélé. D'une part, Émilien va tenter de le soudoyer, va tenter plein de choses, hein, parce qu'il faut qu'il s'évade. Même Prudence, en fait, il essaye de la soudoyer parce qu'elle n'est pas au même stade que lui. Lui, il comprend pas ce que c'est que finalement être esclave, devenir esclave tout d'un coup, quoi. Il le comprend pas.
Il ne conçoit pas du tout.
Non. Ouais, c'est dans son imaginaire, ça marche pas, ce genre de choses. Et donc, effectivement, c'est Gélé, ce petit bonhomme, enfin, ce petit bonhomme. Non, cette petite fille. Alors, pardon, c'est une petite fille.
Oui, une petite fille, en fait.
J'ai pas vu le sexe, donc je sais pas.
Il y a pas de sexe particulier.
Oui.
En fait, c'est ça.
Oui. Donc, donc, qui va être un peu le médiateur, enfin, la médiatrice, qui va tenter quand même de comprendre, parce qu'elle, quand même, elle fait des efforts. Ce petit personnage fait quand même des efforts, hein.
Oui, elle sent qu'il y a quelque chose qui est différent avec ce nouvel animal qui arrive sur l'île, donc qui est Émilien. Et elle sent que cet animal-là n'est pas comme les autres et qu'il y a quelque chose à... Il y a du lien à tisser avec ce personnage-là. Il y a de la réflexion, il y a un possible lien. Voilà.
Eh bien, on va faire une première pause musicale. d'écouter Koumbé, un groupe bien de chez nous, mais quand même qu'on partage avec aussi Bamako, qui a chanté Wéré Wéré. Et vous écoutez Entre les Pages, et ce n'est que sur Radio G. Et je reprends ma conversation avec TM, l'invité du jour. Dans les grandes personnes, vous inventez tout un univers. On en a un peu parlé dans la première partie. Alors, quand on invente un univers, dans les romans, c'est facile. Dans les romans de science-fiction, l'auteur, il met des mots bout à bout, il peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, sur les personnages, pas de souci, ça marchera avec l'imaginaire du lecteur. Mais là, il y a que, parce qu'il a que des mots. Mais vous, les représentations sont objectives. Faut donc faire surprendre le lecteur autant que Émilien est surpris par l'univers dans lequel il va pénétrer. Donc là, vous en avez parlé, il y a beaucoup d'hybridation, de chirurgie sauvage. Il y a eu des recherches particulières quand même pour, par exemple, je pense, pas aux ventrus, mais ces animaux avec deux yeux qui sont blancs, qui ont des pattes, qui sont des espèces de sandwich avec des yeux. Vous avez eu où cette idée-là?
Vous parlez des rats?
Enfin, oui, les rats, voilà, les rats. Ça s'appelle des rats. Moi, les rats, j'avais une autre image des rats. Hein.
Non, c'est ce que Prudence appelle des rats, en fait, oui. C'est-à-dire des créatures... Alors, ce sont des créatures que j'imagine un peu laineuses, un peu la taille d'un chien, je veux dire, avec des... une face plutôt bleue, avec des yeux blancs. Enfin, c'est à la fois effrayant et quelque chose de familier, voilà, comme un animal de compagnie, en fait. Donc, c'est pour ça que ça marche bien entre elles, entre ces animaux et Prudence, parce qu'elle arrive à les domestiquer.
Alors, il y a des questions qu'on doit se poser quand on dessine comme ça, quand on crée une histoire et qu'on dessine. On peut vite tomber dans le ridicule. On peut vite, voilà. Alors, est-ce qu'on vous a aidé, supervisé? Est-ce qu'on vous a conseillé sur les options que vous reteniez?
Sur les animaux, dire,
sur le, bah, je dirais sur l'imaginaire qui est développé dans le roman. Parce qu'il y a un moment donné, oui, les animaux ou autres, on peut, soi-même, quand on dessine, on peut être sûr de ce qu'on fait. Puis finalement, quelqu'un, un regard extérieur va dire, non, là, ça le fait pas, quoi.
Oui, d'accord. Oui. Bah, là, je compte sur ma femme, en fait. Je compte sur ma femme qui lit toujours mes pages en premier, donc qui me dit si ça lui semble ridicule ou bien dans le ton de l'histoire. Mais voilà, donc je compte sur des lecteurs, puis les gens de l'atelier aussi. Donc je fais
l'atelier Kawa.
L'atelier Kawa. Ouais. Donc voilà, donc je fais lire mes pages aux autres pour voir si ça fonctionne ou pas.
Sachant que l'atelier Kawa, c'est un nid de dessinateurs quand même important.
Oui, puis c'est le seul atelier de bande dessinée en milieu rural.
Ouais.
Donc, on est une 14 maintenant. Et donc, voilà, on est dans un atelier où tout le monde, chacun travaille sur son projet, mais bon, il y a pas mal d'échanges à tout niveau, quoi.
Alors, dans lequel il y a toujours Olivier Supio, il y a.
Oui, il y a Boris Beuzelin, il y a Tony Emerio,
Tony Geffroy, ouais. Ouais. Mais bon, il y a du monde. Donc, il y a des yeux critiques quand même. Hein.
Ah oui, il y a des yeux critiques.
Ça doit pas faire de cadeau.
Non. Enfin, non. On est...
Bienveillant, mais
bienveillant,
sans...
Bienveillant, voilà, exactement. Faut l'accepter, voilà.
Ouais. Quand vous créez une histoire, je l'ai dit tout à l'heure, il y a... Les îles sont dans votre... dans vos références, les îles, parce que la Réunion. Quand vous créez une histoire, est-ce qu'il y a toujours... une intention. Là, il y a une intention. Dans les grandes personnes, il y a une intention.
Oui, il y a une intention. Franchement, l'axe que je voulais vraiment traiter, c'est l'humanisation du personnage. Voilà. Comment on passe de l'un à l'autre? Et est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est réaliste? Donc, ça me posait une question sur l'être humain. Quoi. Est-ce que le pardon est possible?
Grande question aujourd'hui. Hein.
Voilà. Je ne sais pas si je pense pas répondre à cette question-là, mais en tout cas, je me la suis posée. Après, les intentions, il y a aussi tout bêtement, proposer au lecteur un moment de lecture, alors, agréable, pas forcément pour le sujet, mais dynamique, parce que je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas dans la bande dessinée, ce que je recherche, et que je recherche aussi au cinéma, c'est d'avoir une lecture ou être dynamique dans la lecture. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de récit choral. Parce que le lecteur, en lisant l'histoire, alors c'est un effort à faire aussi, mais il va raccrocher lui-même les wagons, en quelque sorte, de l'histoire, grâce à des éléments graphiques ou narratifs. Et je trouve que c'est un exercice qui est assez chouette pour un lecteur. Voilà. Moi, c'est ce que je cherche en lecture, donc c'est ce que j'ai voulu faire.
Est-ce que le médium BD, qu'est-ce que le médium BD apporte de plus qu'un essai, ou qu'un reportage, ou qu'un vrai roman? Je le dis à un auteur de BD, c'est cruel ça quand même.
Ouais, c'est dur. Je crois que je ne pourrai jamais réussir à répondre à cette question.
Il y en a qui disent je ne sais pas quoi faire d'autre, je ne sais pas faire autre chose.
Non, je dirais que. Alors, moi, je sais, oui, effectivement, je ne sais pas non plus, je ne sais pas écrire, je ne sais rien faire d'autre. Mais c'est vrai que le média bande dessinée, qui est quand même hyper spécifique, européen, franco-belge, enfin, bref, c'est quand même assez spécifique dans le monde entier. C'est une méthode qui associe l'image et le texte. Et c'est ça. Jusqu'à présent, je comprends toujours pas comment on arrive à lire les deux en même temps. Et pourtant, ça marche.
Oui.
Et c'est un mystère. Moi, c'est un mystère. Et je pense que le mystère, la BD, il est là. Quoi.
Le mystère. Oh là là, on entre dans la spiritualité là.
Non, mais c'est questionnant quand même.
Oui.
Comment on arrive à lire une bande dessinée alors que on est sur deux supports différents. On a créé un nouveau support en fait qui lie ces deux-là. Grâce à une histoire, une culture, et c'est quand même fou. Je trouve ça formidable.
Pour cet album, pour les grandes personnes, je l'ai jamais dit, mais qui est publié quand même chez Dargaud, c'est important de le dire. Donc pour cet album qui est sorti au mois de janvier, vous avez fait tout, le scénario, le dessin, la couleur. Dans quelle partie vous êtes le plus à l'aise?
Incontestablement, dans ce qu'on appelle, alors je sais pas si ça apparaît, c'est pas vraiment dans cette catégorie là, mais c'est le découpage, c'est-à-dire quand on a écrit le synopsis ou le scénario et qu'on commence à faire des premiers croquis de la mise en place des cases, parce que là c'est vraiment la grosse création, c'est-à-dire quels sont les choix graphiques qu'on va faire, et là c'est la partie la plus plaisante et la plus intéressante. Après, tout ce qui est dessin, couleur, écriture, etc., lettrage, je dirais pas que c'est que de l'exécution, mais ce sont des choses qui sont de l'ordre du faire. C'est moins, il y a du créatif certes, mais on est plus dans l'exécution. Voilà.
Vous travaillez tout en numérique, ou alors vous commencez avec un storyboard au crayon?
Non, je suis au crayon sur cet album là. C'est des crayonnés. Je fais un ancrage, ce qu'on peut appeler un ancrage, c'est-à-dire que je fais un crayonné sur le crayonné. Donc je recrayonne mon crayonné, mais en choisissant les bons traits et en utilisant un crayon plus gras. Et donc voilà, j'ai un crayon très fin et très gras. Et du coup, c'est ma planche finale, c'est ça. Voilà, je scanne, et ensuite la couleur, c'est de l'informatique.
La couleur, c'est numérique, hein, c'est numérisé. Mais vous êtes, je sais pas si ma question est peut-être complètement idiote, cette question. Est-ce que le numérique n'a pas tué le plaisir du geste physique du dessin?
Non, parce que, enfin, c'est différent. Sur une autre série qui s'appelle La drôle de guerre de Papy Lucien, tout est en numérique. Donc, du croquis jusqu'à l'ancrage, la couleur. Et c'est un autre plaisir. C'est aussi le plaisir du dessin qui existe toujours là. Et puis, le plaisir du découpage. Enfin, tout est là. Ça change pas le plaisir.
Il n'y a pas plus de froideur sur ces écrans, enfin, quand on voit ce.
Non.
Non.
Non, je sens pas, non.
Je suis assez archaïque, moi. Je pense encore à la matière, au crayon.
Oui, ça dépend ce qu'on veut raconter, mais je trouve que ce sont deux modes d'expression. Le but, c'est de raconter une histoire, de toute façon, quel que soit le moyen qu'on utilise, s'il est efficace, ça marche.
Alors, pour terminer cette conversation, je vous ai demandé de venir avec des livres, parce que c'est toujours intéressant de connaître un auteur par ce qu'il lit. Alors dans cette dans ces livres que je vous ai demandé d'apporter. Il n'y avait aucune contrainte, donc vous étiez libre. C'est beau quand même. Hein.
C'est presque ce que j'ai trouvé.
Bon. Eh ben, alors premier bouquin que vous avez apporté, c'est quoi ?
Alors c'est un truc bizarre. Ça s'appelle Le Paradis pas l'Enfer de Michael Deforge. Donc il y a un auteur canadien qui fait des histoires courtes. Alors c'est plus un expérimentateur, on va dire, graphique, qu'un auteur classique, on va dire. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'il y a vraiment énormément d'inventions. Il y a une poésie, et chaque histoire est traitée dans un style différent. Et je trouve qu'il est très riche. Voilà pour ça, il est quelqu'un d'assez généreux. Et là, on se rend compte vraiment que l'histoire est vachement plus importante que le dessin, parce que vraiment son dessin, il est parfois minimaliste, parfois abstrait, mais il arrive toujours à raconter quelque chose de très très profond. Voilà, je passe aux autres.
Oui, on a le temps de parler, on a le temps. Mais passons à autre chose alors.
Alors, j'ai amené un manga, je lis très très peu de manga. Ah,
le 101e épisode de One Piece.
Non, pas du tout. Pas du tout. Ça s'appelle Les Promeneuses de l'Apocalypse, où il se passe rien.
Bon, excellent conseil de lecture.
Non, mais de temps en temps, alors voilà, parfois on a envie aussi de se reposer un peu. Du coup, on lit ça. Parce qu'il se passe pas grand-chose, c'est juste deux filles qui parcourent le Japon post-apocalyptique en moto. Et je pense que le point de départ, c'est que le dessinateur aime bien la moto. Il aime bien dessiner des motos, et je pense que c'est ça son point, son moteur, si j'ose dire. Et du coup, on les suit dans ce Japon post-apocalyptique où ils vont essayer de retrouver des gens. Bon, bref, mais c'est très très lent, voilà. Moi, j'aime bien de temps en temps lire ce genre de choses. Ça me repose. Mm-hmm.
Voilà. Donc deuxième, là on était dans le manga.
Ouais. Troisième. Alors ça c'est la meilleure bande dessinée que j'ai lue de toute mon histoire.
Ah là. Alors là c'est une pépite.
Ouais, parce que Le Mur de Pan, quand je l'ai lu, j'avais acheté très jeune. C'est un album qui est très très vieux, hein. Le Mur de Pan de Philippe Mouchel. Philippe Mouchel n'a pratiquement fait que ça comme album. C'est une série de 3 albums, je crois. Et donc, c'est une série d'héroïque, on peut dire héroïque fantasy, mais racontée vraiment, c'est très littéraire, très très littéraire. Il y a très peu de cases, il y a beaucoup de pages, pardon, il y a beaucoup de cases par page. C'est du noir et blanc, alors que l'album est en... l'éditeur a insisté pour qu'il fasse de la couleur, mais il a dit non. Donc c'est vraiment du courage. Et à tel point que bon, il a insisté au troisième tome. Il y a un petit peu de couleur, mais c'est vraiment que du noir et blanc. C'est très austère, vraiment très austère. Et du coup, bon, on m'a dit lis ça, tu verras. Alors, je commençais, ça, il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de textes, il y a des trucs que je comprends pas. Et en fait, il m'a dit fais un effort, lis les premières pages, force-toi. Et effectivement, je me suis forcé et j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Voilà. Alors c'est introuvable.
Oui. En deux mots, l'histoire, c'est le mur de plomb. Mais en deux mots, c'est ça l'exercice.
Oui. Bah. C'est un mur qui sépare le monde réel et le monde imaginaire. Et du coup, je crois qu'il y a, de mémoire, ça fait très longtemps que je l'ai lu, il y a une guerre qui se prépare entre le monde de l'imaginaire et le monde réel, et du coup des personnages essaient de contrer cette guerre-là.
Voilà. Le mur de Pan, on rappelle le nom de l'auteur ?
De Philippe Mouchel.
Voilà, merci.
Voilà. Après, un autre livre, alors c'est plus récent, c'est plus rigolo.
Ah, ça c'est...
Le dernier Bouzard, Bouzard c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve très très drôle, et là aussi, quand on parlait de prétexte tout à l'heure avec le manga, avec la moto, là c'est la même chose. Bouzard, en fait, il a été convié à un tournage de la série Lucky Luke en Espagne. Et on lui demande de faire une BD sur le tournage. Mais en fait, il fait une BD sur lui. Sur lui et sur un chien qu'il rencontre, il rentre en plan. Et du coup, tout se passe autour de ça. Et il y a beaucoup de... Enfin, c'est très drôle, voilà.
Et pour finir,
alors c'est pas vraiment une BD, mais c'est une revue. Je voulais juste parler du Cri du Margouillat, en fait, qui est un fanzine qui existe depuis 40 ans cette année.
Là, c'est la page publicité, là.
Ouais, ça fait 40 ans qu'on existe et je trouve qu'on est quand même solide. Alors maintenant, on fait qu'un fanzine par an. Et dedans, voilà, il y a plein de choses. Et je voulais juste noter que voilà, c'est les 40 ans et que c'est pas si courant qu'on trouve un magazine, un fanzine qui tienne aussi longtemps.
Alors c'est un fanzine classieux, hein.
Ouais.
On est au-delà du fanzine, quand même.
C'est du prosine.
Oui, c'est parce que un fanzine, c'est une faut de la photocopie noir et blanc, quoi. Là, on est bien au-delà de ça.
Exactement.
Ouais. Ouais. Et donc, comme je le disais en introduction, j'ai découvert que le dernier numéro du Margouilla, la dernière publication plutôt du Margouilla, qui est un exercice de style. C'était quoi cet exercice de style?
Alors, pour les 40 ans, à La Réunion, on a fait une exposition où il s'agissait d'interpréter une couverture de bande dessinée qu'on aimait bien, à la sauce créole.
Voilà. Oui. Sauce créole, un peu relevé, voilà, un peu de piment aux oiseaux.
Voilà. On changeait un peu les personnages. Voilà, sauce créole. Et du coup, ces affiches ont été affichées dans un lieu, à la Cité des Arts, à la Réunion. Et les gens avaient un parcours, il fallait retrouver les affiches par rapport aux couvertures. Voilà.
Le Tintin avec le champignon et tout ça, c'est qui?
Alors, je crois que c'est un dessinateur d'Afrique du Sud. Je crois que c'est Anton, il s'appelle.
Okay. Eh ben, TM, je vous remercie vraiment d'être venu dans le studio de Radio G. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est moi qui m'étais déplacé à Mazémillon, et puis là pour le retour, c'était le match retour. Alors on verra pour la finale, on verra où ça se passera. Je vous remercie, et puis je vous souhaite un bon retour à Mazémillon. On va faire une deuxième pause musicale.
T'esquisses dans le sol, tu dessines des lignes, tu tisses la trame. Repars, laisse tes sirènes sur la plage, bientôt recouverte de coquillages. Tu plantes tes amours en cage, dans tes nasses écrevisses du marécage. Sous l'encre de ta plume noircissent les pages, bientôt recouvertes de nos histoires. Alors quand t'es pas là, jamais nous deux sans toi rentrons à la maison. Vous deux autour de moi nés sur la même étoile, rentrons à la te prends, si la tristesse, le manque s'envahissent, inonde. Nous deux, on est là, des allumières de toi, rentrons à la.
D'écouter un OSNI, un objet scénique non identifié qui porte...
In 500 meters, go straight.
On va pas mettre le générique de fin tout de suite. Voilà ce que c'est que la technique. Donc, c'est un OSNI, un objet scénique non identifié. C'est un groupe qui s'appelle De Vénus et il chantait Station. Vous écoutez toujours Entre les Pages et ce n'est que sur Radio G. Quelle chance vous avez. Et bienvenue Florence Brosseau.
Bonjour.
Bienvenue Julien Parez.
Bonjour.
Vous êtes les nouveaux responsables de la librairie Contact. Qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête pour reprendre une librairie non rentable qui a subi des dégâts des eaux importants, dont la quasi-totalité de l'équipe a choisi le licenciement, et ça quelques petites semaines avant la fermeture définitive? Julien Paré, c'est quoi cette histoire?
Alors, déjà, dans un point qui est un peu amusant, je vous ai entendu dire effectivement que la librairie n'était pas rentable, mais c'est faux.
C'est faux.
Non, la librairie n'avait pas une grosse rentabilité, mais de là à dire qu'elle était en perte, c'est faux. Elle n'était pas en perte. Disons qu'elle était peu rentable. Mais c'est ça, c'est fait. Peu rentable. C'est-à-dire que c'est déjà, ça paye des salaires, ça paye des équipes, ça fait fonctionner une librairie. En fait, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse foutre à la porte une entreprise qui soit peu rentable.
Ouais.
Dans l'absolu, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a une clientèle, ça veut dire que il y a des équipes. Bon, il s'avère que là, on y reviendra, mais les équipes vont changer. Mais mon objectif à la base était de reprendre contact tel quel, reprendre les équipes, reprendre le fonctionnement, ne pas changer le nom, puisque c'est pas mon objectif de changer le nom d'une institution qui est plus vieille que moi. Hein, ça serait un peu prétentieux de ma part que d'arriver et d'essayer de changer le logo. Mais dans l'absolu, oui, on va pas fermer des librairies. En fait, au-delà même de l'entreprise en tant que telle, je veux pas fermer une librairie. Je veux pas faire en sorte qu'une librairie qui puisse avoir plus de rentabilité soit fermée. Et je pense que ça aurait creusé créé une vraie problématique sur le centre-ville d'Angers, en plus. C'est des choses dont on parle pas assez, mais on se rend pas compte. Mais lorsqu'on a des structures qui sont aussi importantes, qui n'est pas à la hauteur de ce que peut être Lafayette en termes de population et de fréquentation, mais quand même, en fait, vous déshumanisez un peu le centre-ville. Vous faites en sorte que les gens aient moins de raisons de venir dans le centre-ville pour finalement passer plus en périphérie, là où vous pouvez trouver plus de commerce. Donc quand un commerce comme Contact vient à fermer, c'est pas simplement Contact qui en paie les frais, c'est aussi tout le tissu social et tout le fonctionnement du centre-ville d'Angers. Moi, j'ai toujours une librairie qui s'appelle Croquis, qui est spécialisée en bande dessinée. Et je ne voyais pas du tout d'un bon œil la fermeture de Contact. Et de fait, à la base, je me suis dit, pourquoi pas. Le projet avait été originellement repris par un autre libraire, qui est la librairie Lerio. Finalement, le projet ne s'est pas fait. Je me suis retrouvé avec cette possibilité au milieu du mois d'octobre,
oui,
avec le fait d'un coup de téléphone qui m'a été passé à base de « finalement, ça n'est pas repris, je peux peut-être me positionner bon, ». Après, ça a été très compliqué. J'ai énormément travaillé, beaucoup plus que ce que les gens peuvent imaginer, parce qu'en plus c'était sur une période de fête et il fallait quand même que je gère une autre librairie à côté alors que ma directrice était en congé maternité. Il fallait que je gère aussi ça pour une reprise voire fermeture qui était prévue pour février.
Ouais, c'est ça. Hein.
Voilà.
Ouais, ouais. Mais on doit flipper deux secondes quand même, parce que ce qui fait que ça a été compliqué, entre autres, on est dans du bâti ancien à Angers. Et quand on dit bâti ancien à Angers, c'est bâti ancien, pour pas dire vétuste.
Vétuste,
on peut le dire, disons-le, vétuste.
On
peut y aller. Avec une librairie qui prenait l'eau. Alors, vous dites, non, elle prenait pas l'eau économiquement, elle prenait l'eau par le plafond.
Ouais, mais c'est des travaux.
Ouais, c'était des travaux que le propriétaire a finalement décidé à faire, quoi.
Ouais, ça a été un des deals qui a été fait sur cette reprise, sur le fait de refaire la toiture.
Ouais.
Et ensuite, des travaux, en amont, des travaux avaient déjà été effectués pour le fait d'éviter que ça s'inonde trop. je comprends le stress ou la non-volonté de la librairie de continuer cette activité, puisque ça demandait un apport en capital qui était très très important. L'un des points qui a fait la différence, c'est que j'y ai mis beaucoup d'argent. Personnellement, j'y ai mis beaucoup de sous.
Ouais.
Le stress, je vous avoue que je vais être très franc là-dessus, ça peut paraître bizarre parce que souvent on me dit que c'est un peu étonnant, mais le pire du pire, je perds beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout. Ce qui va se passer, c'est que derrière, je continuerai, je ferai autre chose. Je ne voulais pas avoir cette librairie fermée. Je vais tout faire pour faire en sorte qu'elle se continue, son activité, qu'elle se repérennise, on va dire, d'une certaine manière. Qu'elle touche une nouvelle clientèle, et si je n'y arrive pas, parce que c'est pas certain que j'y arrive, j'espère que je vais y arriver, porté surtout beaucoup par les clients, parce que c'est eux qui font fonctionner le commerce, et tant pis, j'aurais perdu de l'argent. Voilà.
Tenter le coup.
Autre chose. Oui, j'aurais essayé.
Parce que
j'ai pas du tout ce stress.
Plutôt que de le voir le verre à moitié vide, ce serait perdre de l'argent. Le verre à moitié plein, c'est de se dire, j'ai quand même tenté le coup, quoi.
Oui, et puis je ne suis pas en difficulté financière. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut créer des véritables stress quand vous mettez tout ce que vous avez dedans et que derrière, si ça périclite, vous vous retrouvez à la rue et que derrière, vous avez un engagement personnel qui soit trop important. Je le comprends très bien. Moi, de mon point de vue, c'est effectivement les économies d'une vie.
Elle est pas très longue, la vie.
Non, mais elle est pas très longue, mais j'ai vendu ma maison pour acheter cette entreprise.
Ah oui.
Donc c'est, voilà.
C'est un gros engagement.
Je me suis engagé. Je suis repassé locataire, ce qui n'est pas un problème. Et ce qui va se passer derrière, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je serai locataire et puis j'aurai encore d'autres activités à côté. Du coup, je n'ai pas ce point de vue de me dire que j'aurai des problèmes dits qui pourraient générer en plus. Mm-hmm. En plus, je suis sûr que ça va fonctionner. Donc, en partant de là...
c'est bien parce que vous parlez, là vous êtes assis à côté de la directrice Laurence Brosseau. Eh ben, c'est vous la directrice de l'aventure.
Oui, oui, hein, c'est moi, oui, tout à fait. J'ai la grande chance.
Vous avez la grande chance de.
Oui, en effet.
Julien Pérez vient de le dire. Ça s'est fait, mais vraiment dans les dernières semaines. Oui. Comment vous avez eu connaissance de l'offre d'emploi, en réalité, puisque c'est une offre d'emploi? Vous l'avez eu comment? Comment vous avez été contacté? Vous connaissiez Julien avant?
Non, pas du tout, non. En fait, moi, je me suis juste trouvée au bon endroit, au bon moment.
Ouais.
Alors, j'ai eu un peu de chance. Au début, c'est mal parti. En fait, j'avais été recrutée par donc l'ex-repreneur.
Oui.
Pour travailler pour lui. Ouh. Quand le projet a capoté, l'entreprise Savoir Plus m'a gardé 3 mois en CDD. Mmh. En renfort Noël, tout simplement, comme libraire. Et du coup, j'étais là, en fait.
Ah, bah oui. Ah là là. La stratégie du coucou, hein.
Et disons que j'ai saisi l'opportunité qui s'offrait à moi, oui, tout à fait. Ouais, oui, ouais. Effectivement, oui, ouais, tout simplement. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a présenté les choses et moi aussi. Ouais. Voilà, je suis libraire depuis 25 ans et pour moi.
Vous venez d'où?
Oula,
ouais, dites-moi. le oula veut dire que vous venez de loin.
Alors, non, d'un petit peu. Enfin, j'ai bougé en fait, surtout pour travailler. Parce qu'en librairie, malheureusement, on est souvent obligé d'être mobile, surtout quand on veut des postes qui nous intéressent. Mm-hmm. Donc, je suis rennaise d'origine.
Ouais.
Je travaille sur Paris suite à ma formation en librairie à Paris. J'ai travaillé dans la Manche, à Saint-Lô, pendant plus d'une dizaine d'années. Après, je suis allée chez Coiffard à Nantes, puis à Ancenis. Voilà.
Il y a une progression vers Angers.
En fait, c'est une stratégie. Vous avez remarqué aussi.
Progressivement,
oui,
pas à pas.
Effectivement.
Votre destinée était là, en fait.
Il faut croire. En tout cas, voilà, ça m'a amené là et j'en suis ravie.
Les albums de TM naissent dans des cauchemars et vous, il y a vraiment, il y a un parcours.
Tout à fait. C'est la Loire, je ne sais pas. Il y a eu un appel, peut-être.
Et donc, mais vous voilà la tête quand même d'une grosse équipe.
Tout à fait, oui, effectivement.
Ça représente une équipe de combien de personnes?
7.
7 personnes.
Pour l'instant, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de manager une équipe quand même chez Coiffard, puisque mm-hmm. j'étais responsable 3 ans de ce qu'ils appellent le tome 2. Vous savez, Coiffard est divisé en 2 magasins.
Oui. Donc, je suis passé.
J'avais une équipe à peu près équivalente à l'époque.
Ouais.
Oui, c'est un gros challenge pour moi et je vous avoue que moi, par contre, à l'inverse, il y a eu du stress, effectivement, il y en a encore et du coup, je travaille beaucoup parce que voilà, j'ai envie déjà moi de réussir et surtout que la librairie réussisse et que l'équipe aussi m'accompagne dans cette réussite.
Les portes ont ouvert quand?
Le 7 mars, le samedi 7 mars.
Alors, quand on reprend une activité, même si elle existait déjà, activité... quand même dans la rumeur publique, on va dire à Angers, on disait ah bah toute façon il y a un problème économique sur la librairie Contact, donc voilà, ça va pas, c'est pour ça que la SADEL s'en sépare. Quand on ouvre la porte et que les premiers jours se déroulent, on doit être sacrément fébrile, non?
Pas tellement, non, parce qu'en fait comme du coup j'étais
déjà
Contact
en place
avant, je connais très bien les raisons pour lesquelles ça a fermé. Effectivement, c'est une volonté du groupe Savoir Plus de vendre ses magasins. Contact n'est pas le premier, ne sera pas le dernier. Donc voilà, on n'a pas du tout à se justifier non plus d'être là. Et effectivement, comme le disait Julien, la librairie n'était pas non plus totalement en déficit. Donc au contraire, il faut la reprendre, il faut la faire vivre et tous les feux sont ouverts pour le faire. Donc non, les clients sont assez ouverts. Et nous écoute, nous pose des questions. J'ai eu de très nombreuses questions avant, effectivement, la fermeture avec l'ancienne équipe. Maintenant aussi. Et quand on leur explique les choses, il n'y a pas de souci. En fait, les gens comprennent parfaitement. Et ils sont ravis qu'on soit à nouveau ouvert et ils reviennent avec grand plaisir.
Mmh. Julien, est-ce qu'il y a votre intention avec cette librairie, c'est de continuer à développer une librairie généraliste, ou alors est-ce que vous avez un projet, peut-être des axes prioritaires que vous aimeriez voir se développer sur ce lieu-là?
L'un n'empêche pas l'autre.
Bien, alors on va parler...
C'est-à-dire que ça restera une librairie généraliste.
Oui. Hein.
Les clients ne verront de différence finalement que dans le fait que le lieu sera mieux aménagé. Déjà, je pense qu'il y a une restructuration qui doit être faite en termes de différents espaces, parce mm-hmm. que ce n'est pas toujours évident de se repérer dans ce genre de librairies qui sont assez importantes, assez larges, avec de nombreux rayons, de nombreuses... Donc, mon objectif premier, c'était déjà de faire en sorte de mieux faire comprendre les linéaires, et le premier étage sera réservé à un aspect plus ludique, c'est-à-dire qu'on aura de la bande dessinée, les rayons jeunesse, mais aussi toutes les choses qui pourraient être un peu en para, comme des booknooks ou ce genre de choses qui fonctionnent plutôt bien, dont moi je suis très très friand d'ailleurs, au passage. Et au rez-de-chaussée, on va dire les choses qui seraient plus liées à des thématiques, qui soient liées à la littérature et plus au monde des adultes. Mmh. Même au travers de la... avec papier stylo, ce sont...
La papeterie.
on peut vous aider, la papeterie.
Merci. Même au niveau de la papeterie, je voudrais en fait qu'il existe une papeterie plus jeunesse à l'étage, où il y ait des rayons qui soient plus dessinés pour les premiers âges, les enfants, des choses qui fassent un peu rêver, avec des stylos qui sont un peu sympas, ou des feuilles de papier, vous savez, comme des trucs très bêtes, mais des doodles, ou ce genre de choses qui, moi, me rappellent mon enfance, qui soient plus prévues pour un public beaucoup plus jeune. Et à côté de ça, bon, vous avez les agendas qui sont plus pour les professionnels ou autres, on va dire, au rez-de-chaussée. Donc déjà, on va faire en sorte de mieux aménager l'endroit. On va du coup focaliser un peu plus l'attention sur des rayons qui sont très en demande actuellement, qui sont la jeunesse, la bande dessinée, la littérature francophone et le polar. C'est les points, en fait, qui sont les points stratégiques en généraliste. Et je trouve que chez les généralistes, peuvent être un peu délaissés, surtout chez les indépendants, la bande dessinée et le manga, qui sont des points que je maîtrise très très bien. On m'aura dit de nombreuses fois que j'étais un peu idiot dans ce constat, c'est-à-dire que j'ai une librairie PBD à côté et que je veux développer la bande dessinée dans un autre magasin, mais je pense qu'il existe véritablement des complémentarités et que les clients de la librairie Croquis ne sont pas les clients de chez Contact. Ils peuvent le devenir, puisqu'en fait, il y a des spécialisations, mais vous ne pouvez pas concurrencer un spé. C'est-à-dire que même si j'essaie de développer le rayon bande dessinée à Contact, ça permettra d'avoir une offre qui me semble un peu plus intelligente que ce qui était présenté avant, non pas qu'elle était stupide, mais dans l'idée, je pense qu'il y avait peu de PBD au sein de l'univers de Contact avant, et du coup les sélections étaient faites un peu comme on pouvait. Là, j'ai recruté quelqu'un qui vient d'un univers PBD pour gérer ce rayon-là. Mmh. Et ça, il n'y aura pas autant de références que ce qu'on peut trouver chez Croquis ou que ce qu'on peut trouver au Repère des Héros, puisque je citais le Repère des Héros, j'ai pas de problème, qui sont des spé et qui sont bien meilleurs que ne le sera Contact pour aller chercher des petites pépites un peu cachées, parce qu'on ne peut pas tout avoir, mais par contre la sélection sera plus solide, on va dire, sur ce qu'il y avait vis-à-vis de ce qu'il y avait avant à Contact. C'est pareil pour la jeunesse, ou non pas qu'elle était délaissée, mais je pense que la sélection était un peu faible vis-à-vis de ce qui peut être présenté. Et je ne vais pas dire que c'est pour voir le futur, mais c'est aussi parce que c'est ce qui m'amuse. C'est pas tout bête, mais moi j'adore travailler avec les plus jeunes, les enfants, et faire ce genre d'animation. On va développer beaucoup d'animations pour la jeunesse. C'est très important. On mettra en place beaucoup de séances de dédicaces. C'est des choses qui seront mises en place à Contact, qui étaient peut-être moins faites auparavant.
Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez tout mis dans cette aventure. Est-ce que quand on est entrepreneur... Parce que c'est là je parle à l'entrepreneur. Est-ce qu'on quand on est entrepreneur, on se donne une deadline. C'est-à-dire est-ce qu'on se dit l'aventure, elle va voilà, je la conduis parce que j'ai pris l'engagement de la conduire, mais voilà, je suis pas non plus suicidaire. Est-ce que vous vous êtes donné des échéances?
Je ne pense pas que ça fonctionne exactement comme ça. En fait, vous avez forcément des échéances qui sont liées à des réalités terrain de fonctionnement d'une entreprise. Vous avez une première année qui se doit d'être en résultat à peu près cohérent avec les prévisionnels que vous effectuez. Avant d'entreprendre de créer une entreprise ou d'entreprendre quoi que ce soit, vous faites ce qu'on appelle des prévisionnels. Le but, c'est de voir si les prévisionnels collent à peu près avec la réalité. Si votre prévisionnel n'est pas complètement idiot, normalement, ça colle plutôt pas trop mal avec la réalité. Là, mes prévisionnels sont excellents. Ils sont excellents parce qu'ils ont été construits sur des bases qui sont assez différentes de ce qui était Contact avant, déjà avec une réduction du staff de l'équipe. Faut savoir qu'on passe de 15 salariés à... Là, actuellement, il y en a 7, mais on va passer à 9 assez rapidement. Et que... là, j'en voyais TM qui levait un peu les yeux, mais il est vrai que c'est beaucoup 15 personnes. Et c'est énorme.
Bah oui.
Une structure comme Contact, même s'il y a beaucoup de travail, je l'entends, mais il suffit de regarder le nombre de mètres carrés pour comprendre que 15 personnes, ça représente quand même une charge qui est assez importante. Si vous prenez 15 personnes dans un staff, plus le fait qu'il y avait des commandes qui étaient quand même générées de manière très importante et tout était centralisé auprès de Savoir Plus, bon, vous vous rendez compte que vous pouvez faire des réductions de coûts assez substantielles et que l'entreprise, encore une fois, n'était pas déficitaire. Donc, si mon prévisionnel se tient, ma première année a pour but de vérifier si c'est à peu près cohérent avec ce que j'avais vu. Même si je suis en baisse vis-à-vis du prévisionnel, eh ben on va trouver les points. Et la finalité, c'est surtout, est-ce que ça peut tenir ? Ça se verra très vite au travers des chiffres. Très simple, si au bout de 3 mois, de façon que vous n'êtes pas en mesure de tenir votre prévisionnel, l'entreprise, elle coule. Hyper simple. Et au bout de 3 ans, vous regardez où vous en êtes, et théoriquement, la première année, c'est une première année de reprise, la deuxième, c'est une année de création, et la troisième, c'est une année de stabilisation. Donc la première, on est en reprise, donc pour le moment, on fait ce qu'on peut pour reprendre. La deuxième, on va faire des travaux très importants qui vont avoir lieu dans la librairie pour la rendre aussi plus agréable, en plus de la toiture, ce qui évitera que Simon tous les 4 matins.
Il y a eu un test magnifique avec les pluies du printemps. C'était génial, ça.
C'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, ça a été un formidable test.
Ah oui.
Je l'ai vu parce que je ne pouvais pas rentrer dans le magasin à cette période-là. C'est-à-dire qu'on était fermé et que je n'avais pas le droit de rentrer dedans pour des questions légales. Et qu'au moment où je suis re-rentré dedans, je fais bon, allez, je vais voir l'étage. J'étais avec monsieur Bouissou. Pas une goutte d'eau. Je fais tranquille. C'est facile.
Et bien écoutez, Florence Brosseau et Julien Pareil, je vous remercie d'être venus à Radio G pour parler de cette aventure-là, de cette nouvelle aventure pour vous deux d'ailleurs, parce que c'est une nouvelle aventure. On va suivre bien entendu votre activité, voir ce qui se passe, regarder les invités, parce que c'est toujours intéressant, ces librairies qui s'engagent dans un travail d'inviter des auteurs, des autrices. Mais voilà, l'émission arrive à sa fin. Je vais devoir rendre les clés du studio. Merci à vous, TM. Merci, Florence Brosseau. Merci, Julien Paré, d'être venu à Radio G. Merci aux visiteurs qui ont été d'une sagesse exemplaire. Mais entre les pages, c'est fini et c'est bien triste. Alors, avant d'éteindre la lumière du studio, quelques informations. Je suis obligé de parler des 48 heures BD, un événement national qui aura lieu à Angers grâce au Repère des Héros, la librairie BD d'Angers. L'autre librairie BD d'Angers, là je me rattrape. Gros programme les 3 et 4 avril prochains, une dizaine d'invités. Et que vois-je dans le programme ? Vous, TM ? Toutes les informations sur le site du Repère des Héros. Autre moment important, du 1er au 10 avril, c'est Écriture en acte, ok. Une manifestation qui donne un vrai espace pour les écritures contemporaines. Là aussi du beau monde, un programme à retrouver sur le site du Quai. Et puis, le 14 janvier dernier, j'avais accueilli Martin Page et Camille Kouassi, qui étaient en résidence à la maison Julien Gracq pour réaliser un livre d'artiste. Eh bien, l'objet existe maintenant. Moi, je l'ai vu juste à la fin de son impression au musée de l'imprimerie à Nantes. Que dire ? C'est un objet superbe et rare, puisqu'il n'existe qu'à 40 exemplaires. Et si vous allez à la maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, eh ben vous pourrez sans doute le consulter. Au cours de l'émission, vous avez entendu Kounbé qui a chanté « Were Were » et Devinus qui a chanté « Station ». Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 8 avril à 17h. Gros programme, puisque je recevrai pas moins de 3 résidents de la maison Julien Gracq, Antonin Crène, romancier, Maud Thiria, poétesse, et Mathilde Doaizier, journaliste indépendante. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI, et puis bien évidemment votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée, et maintenant...
And then go straight.
Générique.
FM.